Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Et à la une, et si ce mardi était le dernier jour d'école de l'année?
Le conseil scientifique encourage les parents qui le peuvent à garder leurs enfants pour le reste de la semaine pour limiter au maximum les interactions avant les fêtes. Dans l'actualité également, ce pari risqué d'Emmanuel Macron, un référendum sur le climat. Et puis game over pour Donald Trump, la victoire de Joe Biden est officiellement confirmée.
RTL Matin.
Les vacances vont-elles arriver un peu plus vite que prévu? En Allemagne et aux Pays-Bas, les écoles ferment dès demain pour limiter au maximum la propagation du virus avant les fêtes. Et en France, on l'apprend ce matin, Virginie Garin, les enfants pourront ne pas aller en cours jeudi et vendredi. C'est une recommandation du Conseil scientifique.
Oui, le ministre de l'Éducation devrait confirmer aujourd'hui cette tolérance pour les enfants. Il faudra que les parents, évidemment, préviennent leur établissement scolaire, sachant que la période d'incubation du virus est d'en moyenne 5 ou 6 jours. Ça limitera les risques pour les enfants qui iraient réveillonner avec leurs grands-parents, par exemple. Alors, le Conseil scientifique recommande aussi à tous les adultes, une semaine avant Noël, d'avoir le moins de contacts possible, de faire attention, sachant qu'il faudra de toute façon rester vigilant pour le repas de Noël. Gestes barrières, masques, aérés, car même avec cette période de 5 à 6 jours, on peut être malade et asymptomatique et transmettre le virus. Mais c'est un moyen de limiter sa diffusion quand même.
Et le conseil scientifique encourage aussi les Français à se faire tester avant les réveillons. Réveillons de Noël et de Nouvel An.
Exactement. Les mardis, mercredis ou jeudi avant Noël ou le 31. Même chose, ce n'est absolument pas une garantie à 100%, mais des tests massifs permettront de repérer des cas. Si vous êtes positif, vous devrez vous isoler. Si vous êtes négatif, il faudra quand même faire attention car ces tests ne sont pas totalement fiables. Il y a des faux négatifs, donc prudence de toute façon pour que Noël reste un bon souvenir.
Merci beaucoup Virginie Garin. Et dès aujourd'hui, vous le savez, plus besoin d'attestation pour sortir de chez vous, mais il faudra respecter un couvre-feu entre 20h et 6h du matin. Les restaurants, les bars, les cinémas et les théâtres resteront, eux, fermés.
8h02, le coup de poker d'Emmanuel Macron maintenant.
Le président a repris à son compte une proposition de la Convention citoyenne pour le climat. Il l'a annoncé hier soir à l'Élysée en recevant ces 150 Français qui avaient été tirés au sort. Il promet un référendum pour inscrire la défense du climat dans la Constitution. C'est une façon de répondre aux plus sceptiques qui doutaient de sa volonté. Mais cette modification qui aura besoin du vote de l'Assemblée et du Sénat aujourd'hui à droite, servirait-elle vraiment à quelque chose? Absolument pas, d'après cet avocat spécialisé dans le droit de l'environnement, Arnaud Gosseman.
La Constitution comporte déjà un texte qu'on appelle la Charte de l'environnement, adoptée en 2005 à l'initiative de Jacques Chirac. Et ce texte est bien plus riche pour protéger l'environnement que cette fameuse phrase que l'on inscrirait à l'article 1er qui ne serait que symbolique. Donc le vrai problème aujourd'hui, ce n'est pas tellement de créer de nouveaux symboles pour la protection de l'environnement, c'est de donner des moyens à l'État, aux entreprises, pour appliquer toutes les lois qui ont déjà été votées. Perdre un an de plus, après le grand débat national, après la convention citoyenne, pour débattre et redébattre à l'infini de la protection de l'environnement, est-ce qu'on a le temps d'attendre autant?
Propos recueilli par Raphaël Vantard. Je me tourne vers vous, Olivier Bost, éditorialiste politique à RTL. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Olivier? La défense de l'environnement figure déjà dans la Constitution?
Alors, pour être précis, c'est dans le préambule. Il y est écrit que le peuple français proclame son attachement aux droits de l'homme et à la charte de l'environnement de 2004. Cette charte, c'était la traduction de la phrase de Jacques Chirac en 2002 au sommet de la Terre. « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Mais une charte, par définition, n'est pas très contraignante. Inscrire la priorité de la lutte pour le climat et la biodiversité dans l'article 1er serait contraignant pour toutes les lois futures. Ça n'a pas la même portée.
Bon alors, avant de demander leur avis aux Français, il faut faire valider le principe du référendum aux deux chambres. Il y en a une qui est à droite, c'est le Sénat. C'est un pari risqué, ça, pour le président?
Oui, c'est un pari risqué pour le président, effectivement. Et c'est un défi aussi pour les oppositions. Un pari parce que, à quelques mois de l'élection présidentielle, un échec serait bel et bien l'échec d'Emmanuel Macron. Nous avons une référence dans l'histoire, le référendum de De Gaulle sur la régionalisation en 1969, qui avait signé la fin du long règne du général. Le risque aussi est de se retrouver dans quelques mois avec une promesse totalement décalée. Serons-nous encore en plein Covid ou dans les plans sociaux? L'écologie sera-t-elle le sujet du moment? Mais avant tout cela, il faudra effectivement passer la barrière du Sénat, la place forte de l'opposition. Les sénateurs seront tentés de bloquer le processus parce que d'abord, ils ne sont pas les plus écolos et parce qu'ils ne voudront pas faire ce cadeau au président sortant. Mais c'est eux qui porteraient alors la responsabilité de l'échec, pas le président. Emmanuel Macron pourrait dire qu'il a été empêché, qu'il faut donc voter pour lui quelques mois plus tard pour vraiment faire bouger les choses. Le référendum est un double piège pour ceux qui sont pour et pour ceux qui sont contre.
C'était l'édito politique d'Olivier Bost. Merci Olivier. Oui.
Et l'un des membres de la Convention citoyenne, Grégoire Frati, sera avec nous à 8h20 sur RTL.
La prime de Noël est versée à partir d'aujourd'hui entre 152 euros et 442 selon la taille des foyers qui sont 2,5 millions à en bénéficier aujourd'hui en France.
Dans un instant, votre futur lave-linge est-il facilement réparable? Des étiquettes vont vous aider à y voir plus clair et ce n'est pas désagréable de l'apprendre. A tout de suite.
RTL Matin.
Il est 8h08, la suite du journal de Jérôme Florin. Du rouge au vert, une étiquette commence à apparaître sur les appareils électroménagers.
Un nouveau code couleur qui va vous permettre de savoir si votre machine est facilement réparable ou pas. C'est une mesure de la loi anti-gaspillage qui sera obligatoire en début d'année prochaine. Un code utile quand on sait que les imprimantes, les lave-linges et lave-vaisselle sont les appareils les moins fiables. Camille Bordelais est la directrice générale du groupement des fabricants d'électroménagers. Elle est avec Armelle Lévy.
C'est une note de 1 à 10 qui va être accompagné d'un logo avec un code couleur. Il repose sur plusieurs critères, de savoir si le produit est facilement démontable, s'il existe des pièces, pendant combien de temps elles sont disponibles, le prix de ces pièces. C'est pour éclairer le choix du consommateur. En un simple coup d'œil, le consommateur a une information large sur la réparabilité de l'appareil.
Bonjour Martial You.
Bonjour.
Alors question très simple, ça marche ce genre d'étiquette sur le comportement des acheteurs ou pas ?
Écoutez, une étude qui a été réalisée cette année a montré que 85% des acheteurs estimaient que les codes couleurs étaient déterminant dans leur choix, le code couleur ou la note. Ce qui est certain, c'est qu'en général, cette notation influence aussi, et d'abord peut-être les fabricants eux-mêmes. Cet indice de réparabilité va donc d'abord concerner en début d'année prochaine 5 types d'appareils, les télés, les smartphones, les ordinateurs, les tondeuses et les machines à laver le linge. La conférence citoyenne dont on parlait à l'instant avec Olivier Bost demande aussi que les pièces détachées d'ailleurs soient disponibles encore pendant 10 ans. Et d'ailleurs, si on regarde la durée de vie des appareils électroménagers, on s'aperçoit qu'un réfrigérateur dure en moyenne 11 ans, une machine à avait 10 ans et un congélateur 13 ans, c'est-à-dire autant qu'en 1990. Alors, on est tous d'accord, on a tous le sentiment que nos appareils tombent en rideau au bout de 3-4 ans.
Oui.
C'est vrai, ça existe. D'ailleurs, au début de l'année, Apple a été condamné par l'autorité de la concurrence à 25 millions d'amendes pour obsolescence programmée. Mais en fait, une fois sur deux, l'appareil est en panne parce qu'on ne l'entretient pas, nous. C'est le filtre ou le tuyau bouché, le tartre, la grille de ventilation obstruée. Bien souvent, il n'y a même pas besoin de pièces de rechange. Cet indice de réparabilité va donc avoir un mérite imposé aux fabricants de fournir au moins pendant quelques années des pièces de rechange.
Et c'est quoi l'indice de réparabilité d'un Martial You?
Alors, c'est très compliqué, ça ne se recycle pas.
Merci Martial. À l'étranger, Joe Biden, officiellement élu président des États-Unis, le Collège des grands électeurs a entériné sa victoire. Pour Biden, il est temps pour Donald Trump de reconnaître la défaite.
Il y a 4 ans, lorsque j'étais vice-président, j'ai dû annoncer le décompte des votes des grands électeurs lors de la session du Congrès. Ils avaient désigné Donald Trump. J'ai fait mon travail. Nous, les Américains, avons voté. La foi en nos institutions est maintenue, ainsi que l'intégrité du scrutin. Et maintenant, il est temps de tourner la page. Je serai le président de tous les Américains.
Joe Biden, donc officiellement 46e président des États-Unis. Le groupe terroriste Boko Haram revendique ce matin l'enlèvement de plusieurs centaines de lycéens dans le nord-ouest du Nigeria. C'était la semaine dernière, plus de 300 adolescents sont toujours portés disparus. Et puis en Russie, 11 personnes sont mortes dans l'incendie d'une maison de retraite cette nuit dans l'Oural. Une enquête pour violation des règles de sécurité a été ouverte.
8h09, dans les Landes, près de Mont-Marsan, la journée commence tôt pour les écoliers.
Oui, les écoliers du village de Bougue, où la route qui mène à l'école a dû être fermée à cause d'un pont qui est menacé de s'écrouler. Ils doivent partir à pied de chez eux le matin à 7h30 et ce sont les élus qui les accompagnent. Philippe de Maria.
Comme chaque matin, monsieur le maire, Jean-Guy Bachet emprunte à pied la route désormais coupée par un pont hors d'usage.
Il y a plus de 250 personnes qui habitent de l'autre côté du pont. Pour venir au village, il faut faire un détour de 15 km.
Très compliqué pour les parents de conduire leurs enfants à l'école. Alors, les élus se chargent toujours à pied du convoyage des enfants.
Voilà. Bonjour les enfants.
Bonjour.
Patricia, première adjointe et organisatrice.
On a décidé de mettre ce pédibus, donc il a pris petit à petit. Au départ, on était 6 enfants. Puis là, on est jusqu'à 12 enfants tous les jours.
Sacha et Elia qui sont là.
Il est l'heure, enfin, de prendre la route.
Ça me dérange beaucoup. Ouais. J'aime pas marcher. J'aime que faire des courses, mais j'aime pas marcher.
Patricia, elle, est ravie.
Le pédibus a créé quand même du lien entre les habitants parce que certaines personnes ne se connaissaient pas.
Laetitia, infirmière et maman, apprécient les efforts des élus municipaux.
Et je crois que c'est pas évident pour eux. Ils prennent du temps pour le faire et oui, c'est très confortable.
Le pédibus du village de Bouc devrait continuer jusqu'en janvier et la mise en place d'un transport en commun de grande capacité, certainement plus confortable, mais pas forcément plus convivial.
Non, on monte pas sur les cailloux, allez.
Bizarre, cette histoire, un reportage de Philippe de Maria dans les Landes.
Le chiffre du jour, s'il vous plaît.
20 millions de dollars, c'est ce que va toucher une ancienne directrice du site américain de partage de photos Pinterest, que vous connaissez sans doute. Elle accusait le groupe de discrimination sexiste à son égard. Pinterest a préféré payer pour s'épargner un procès. La plaignante disait être moins bien payée que ses collègues masculins. Bien, avec ses 20 millions, on peut dire que l'erreur est largement réparée.
Et c'était le